enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Prenons nos Bibles dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ici, le Seigneur, dans sa parole, nous dit de ne pas nous inquiéter. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Quand vous lisez d'autres passages, vous voyez par exemple le Seigneur qui dit que celui qui se soucie, en fait, se soucie pour peu. Parce que le fait de se soucier ne peut pas te permettre de sortir de ta situation. Au contraire, au lieu de se soucier, il faut poser des actes, il faut agir. Et l'acte qu'il nous demande de poser, c'est d'exposer et d'exprimer nos besoins vis-à-vis de Dieu, au lieu de se soucier. Pourquoi? Ou bien de s'inquiéter. Ça peut paraître pour certaines personnes un peu bizarre que Dieu, qui connaît tous nos problèmes, qui connaît les situations dans lesquelles nous vivons, qui connaît les situations que nous traversons, puisse avoir besoin qu'on lui rappelle ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous comprenez? Mais quel rapport y a-t-il entre le fait de se soucier ou de s'inquiéter et puis la prière? Tout simplement parce que lorsque tu pries et que tu exprimes à Dieu tes besoins, tu te décharges des fardeaux et tu te décharges des situations qui éventuellement peuvent te tourmenter ou te fatiguer. Lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce », ça veut dire tout simplement que, à partir du moment où tu as prié, considère que tu es complètement déchargé de cette situation et que c'est à Dieu maintenant de faire sa part. Maintenant, il dit également, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais il ne s'arrête pas à des prières et des supplications. Il dit à des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Avec des actions de grâce. Dans action de grâce, tu as déjà action qui est agie, qui est posée un acte, et tu as grâce qui vient donc du mot grâce, c'est des grâces qui te sont accordées, quelque chose qui t'est donné que tu ne mérites pas forcément. Amen. Et donc quand tu poses des actions de grâce, en fait, ce sont des actes qui sont des actes de foi. Parce que les actions de grâce, en fait, ce sont des offrandes de remerciement. Ce sont des offrandes de remerciement à Dieu. Et quelqu'un qui fait une offrande de remerciement avant de voir la réponse à sa prière se matérialiser est en train de poser un grand acte de foi. C'est-à-dire, lorsque tu viens devant le trône de Dieu et que tu apportes ton sujet de prière, tu as un besoin, tu l'apportes à l'Éternel, considère que Dieu a déjà exaucé ta prière. Et donc, la seule chose que tu peux faire en retour, c'est de le remercier pour ce qu'il a accompli. Prenons Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Colossiens chapitre 2, verset 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Abondez en actions de grâce. Vous savez, les enfants d'Israël n'ont pas changé de repas dans le désert, tout simplement parce qu'ils ne faisaient pas des actions de grâce. Ils n'abondaient pas en actions de grâce. Ils passaient leur temps à se plaindre. Et le peu que Dieu leur donnait, au lieu de remercier le Seigneur pour ce qu'il leur avait donné, ils étaient encore en train de se plaindre. Je vous ai expliqué la signification du mot man. Man qui veut, en fait, quand vous traduisez man, et en fait, les Israéliens disaient mana, ça veut dire c'est quoi ça? Donc vous imaginez des gens qui sont dans le désert, qui ont faim, qui prient le Seigneur, et qui demandent que le Seigneur leur donne du pain. Et le Seigneur leur envoie de la manne. Et lorsqu'ils voient la manne, ils disent, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et à un moment, les Israéliens ont commencé à parler de la manne comme quelque chose de complètement dégueulasse. Il y en a un qui dit, mon âme est cette manne-là que Dieu nous envoie tous les jours. Que je regrette même d'être venu dans le désert parce que je n'ai trouvé que la souffrance, la désolation. Il dit, je me rappelle des bonnes choses qu'on mangeait en Égypte. Et j'ai envie d'y retourner. Regarde comment un homme qui a prié pour que Dieu le sorte de l'Égypte, le sorte de l'esclavage, peut se plaindre et peut crier à Dieu d'une manière qui puisse vraiment blesser le Seigneur. Comment le Seigneur a-t-il été blessé? Quand vous regardez dans Nombre, par exemple, Nombre 14, allons dans Nombre 14 un peu. Le Seigneur dit, ceux qui m'ont tenté déjà 10 fois, au verset 26, il dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? C'est-à-dire, Dieu fait les choses pour toi. Au lieu que tu le remercies, au lieu de le remercier, au lieu de faire des actions de grâce, au lieu de le bénir, tu murmures. Tu continues de te plaindre. C'est ça le problème. Pourquoi, vous savez, après une prière de requête, il doit y avoir une action de grâce. Et généralement, pourquoi est-ce que notre vie de prière, et lorsqu'on présente nos sujets à Dieu, arrive à un certain moment, il y a comme un blocage, une fermeture, tout simplement parce qu'on ne fait pas suivre nos requêtes des actions de grâce. Il y a des gens qui prient pour quelque chose, Seigneur donne-moi une maison, et lorsqu'il reçoit la maison, au lieu de remercier le Seigneur d'abord pour la maison qu'il a eue, il prie maintenant pour que le Seigneur lui donne une voiture. C'est comme ça que les hommes sont. Seigneur, donne-moi une maison, Seigneur, donne-moi une maison, Seigneur, donne. Dès qu'il a la maison, Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. Dès qu'il a la voiture, Seigneur, donne-moi. Et quand il voit que la voiture tarde, il commence à dire, ah, vraiment, moi, je comprends pas. Depuis que je suis converti là, les choses sont devenues difficiles. Avant, je changeais de voiture chaque mois. Maintenant, pour avoir une voiture, c'est compliqué. Alors qu'il vient d'avoir une maison. Hein. Mais il ne se rappelle pas que Dieu lui a donné une maison. Après une prière de requête, il faut qu'il y ait forcément une action de grâce. Comment est-ce que tu dis à quelqu'un que tu acceptes le cadeau qu'il t'a donné? C'est quand tu dis merci. Si quelqu'un te dit, tiens, je te donne un téléphone, et que tu prends le téléphone, tu ne dis rien, c'est comme si tu n'as pas accepté. À tout moment, il a le droit de venir t'arracher le téléphone. Moi, je te donne quelque chose, tu ne me dis pas merci. Je peux prendre. Il a dit, bon, c'est pas grave. Je savais pas que tu n'avais pas besoin de téléphone. Redonne-moi mon téléphone. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et si je leur donne ça, eux au moins, ils vont dire merci. Amen. Pour avoir une vie de prière équilibrée et pour être écouté de Dieu, il faut savoir dire merci. Combien de fois tu as prié? Combien de fois le Seigneur a répondu à tes prières? Et combien de fois tu lui as dit merci? Il dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Noun. C'est-à-dire que Dieu lui-même a juré de les faire entrer à Canaan. Mais il dit, même si j'ai juré de vous faire entrer là-bas, vous n'allez pas entrer. C'est-à-dire qu'il peut y arriver un moment, lorsque tu murmures, lorsque tu ne sais pas dire merci à Dieu, lorsque tu n'entretiens pas une bonne relation avec Dieu, un moment où Dieu lui-même se répand de la prophétie qui a été dite sur ta vie. Il dit, même si on a prophétisé que tu allais devenir un grand homme de Dieu, j'ai dit, c'est fini, tu ne feras plus rien de ta vie parce que murmurer, ça agace l'Éternel. Ça l'agace. Ça l'énerve. Regarde, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la Bible. Ça l'énerve. Et vous avez des gens qui sont passés docteurs dans l'art de murmurer. Moi, personnellement, j'en connais. Il y a trop de chrétiens. Dès que vous commencez à parler avec eux, c'est des murmures seulement qui sortent de leur bouche. Ah, moi, je comprends pas. Ah, pourquoi le Seigneur? Ah, moi, je comprends pas. Ah, pourquoi le Seigneur? Mais tu ne peux pas savoir à quel point tu es en train de t'éloigner de la bénédiction, tu es en train de t'éloigner du miracle, tu es en train de t'éloigner de la grâce de Dieu. Tu t'éloignes. Parce que si tu veux voir les choses changer, il faut que tu poses des actes de foi. Et les actes de foi, c'est les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est les actes que tu poses vis-à-vis de Dieu en remerciement aux choses qu'il t'a données. Le Seigneur est plus touché par tes actions de grâce que par tes murmures. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font les actions de grâce. Mais il y en a beaucoup qui murmurent. Donc si tu veux te faire remarquer, il ne faut pas faire ce que tout le monde fait. Fais ce que le peu de personnes font. Dans la proportion, je vais vous dire, il y a un chrétien sur dix qui, qui pose des actions de grâce ou qui remercie le Seigneur. Je vais vous montrer dans les statistiques que Jésus a faites dans la Bible. Je vais vous montrer. Dieu est plus touché. Imagine, attends, tu pries le Seigneur, deux personnes prient le Seigneur. Il y en a un qui commence à pleurer. Oh Seigneur, je ne vois pas, depuis je ne vois pas. Oh Seigneur, je ne sens pas, je n'entends pas, je n'ai rien vu depuis. Et il y en a un autre qui remercie le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te remercie parce que je sais que tu as entendu ma prière. Et comme tu l'as entendu, je sais que tu l'as exaucé. Je suis béni, Seigneur, de voir que vraiment, Seigneur, tu entends tes enfants, tu réponds à leurs prières, tu es mon berger. Seigneur, je te bénis parce que je sais que je suis exaucé. Et même, pour aller plus loin dans l'exaucement, il prépare une offrande d'action de grâce qu'il apporte à l'Éternel. Et dit, voilà ce que je sème pour l'exaucement de ma prière. Dieu lui-même dit, mais attends, dépêchez-vous régler le problème de mon fils là. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'il a su toucher le cœur de Dieu. Il fait des choses. Ça dit, quand il dit, si quelqu'un demande par la foi, en priant, tout ce qu'il demandera lui sera donné. Mais demander par la foi, c'est quoi? C'est lorsque tu demandes. Voilà, tu crois que tu l'as reçu. Et maintenant, tu le verras s'accomplir. Mais comment est-ce que tu crois que tu l'as reçu? Lorsque tu agis comme si tu l'avais reçu. Ce que tu voulais faire lorsque tu allais recevoir la réponse à ta prière, fais-le. Et tu verras la réponse à ta prière. Alléluia. C'est ça la foi. La Bible dit que depuis Jean le Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Cette violence-là, tu l'exerces dans quoi? Comment? C'est pas en murmurant, en pleurant, en racontant ta vie à tout le monde, à tous ceux qui passent, non. Mais c'est en posant des actes. C'est pour ça que la Bible dit action de grâce. Action. Dis à ton voisin, action. Prends ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 12. Tu vas voir comment Jésus a fait ses statistiques. Luc chapitre 17, verset 12. On va lire à partir du verset 11, ok? Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Le fait qu'il soit venu rendre grâce à Dieu, au Seigneur, était une preuve de foi et un acte de foi. Et le Seigneur lui dit, mais attends, ou bien j'ai mal vu. Quand vous êtes venu pour demander la guérison. Vous étiez 10, non? Il dit oui. Il y avait moi et puis mes collègues lépreux. Mais où sont les 9 autres? Ils sont partis vaquer à leurs occupations. Et demain, lorsqu'ils auront la lèpre, vous pensez qu'ils auront le courage de revenir encore vers Jésus? Ou bien qu'ils auront quelque chose d'autre? Vous savez, il y a certaines personnes qui n'ont rien reçu de nouveau dans depuis leur grand miracle. Moi, j'aime souvent les chrétiens parce qu'il y en a beaucoup qui sont nostalgiques des temps passés. Oh, quand je venais de me convertir, vraiment c'était bien. Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, Dieu a fait ceci. Mais est-ce que tu as remercié Dieu pour ce qu'il a fait? Beaucoup qui n'ont rien reçu de nouveau tout simplement parce qu'ils n'ont pas remercié Dieu pour le dernier miracle qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas remercié. Ils n'ont pas remercié. Les Américains diront « You take it for granted ». C'est-à-dire, tu penses que c'est gratuit, c'est cadeau. C'est ce que les gens disent, c'est cadeau, pas gratuit. Que ça n'a pas de valeur, en fait. Dieu ne te demande pas d'acheter le miracle. Mais le miracle a une valeur. Il te le donne gratuitement, gracieusement. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Quelqu'un est mort pour qu'aujourd'hui tu puisses recevoir la guérison. Quelqu'un a été blessé pour que tu puisses recevoir la guérison. Quelqu'un a été pendu au bois pour que tu puisses sortir de la malédiction. Quelqu'un a dû vivre une vie de sacrifice sur la terre et accepter d'être bafoué pour que tu puisses avoir l'autorité sur les démons. Quelqu'un a dû aller dans le séjour des morts à ta place, en enfer, pour aller récupérer les clés du séjour des morts. Pourquoi aujourd'hui tu n'as plus besoin de passer par l'enfer pour aller dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses-là ont un prix. Et quelqu'un qui ne sait pas dire merci, c'est quelqu'un qui ne va pas expérimenter des miracles. Peut-être qu'il va expérimenter un miracle, deux miracles, et puis c'est fini. Sur 10 chrétiens, 10 lépreux, il y en a un seul qui s'est rappelé que, attends, la lèpre, c'est une sale maladie. La lèpre, dans le temps, ne se guérissait pas. La lèpre te rongeait petit à petit jusqu'à ce que tu ne ressembles plus à rien. La lèpre supprimait tout ce que tu pouvais utiliser pour gagner de l'argent. Ça ronge des extrémités, des mains, des pieds. La lèpre fait de toi un lépreux, un pestiféré. Et les lépreux devaient porter à leur cou des clochettes. De telle sorte que lorsqu'ils arrivent dans un endroit, en entendant le bruit, tout le monde sache que ce sont des lépreux et les gens fuyaient, loin d'eux. Ils vivaient dans une souffrance terrible. Et ils n'avaient pas le droit d'aller vers les leurs. Ils ne pouvaient plus retourner chez lui à la maison. Ils n'avaient plus le droit de voir sa femme, de voir ses enfants. Ils étaient dans une situation terrible. Et voilà qu'ils viennent vers le Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Le Seigneur leur dit, bon, allez vous montrer au sacrificateur. Vous voyez, là encore, ils ont eu de la foi, ces gens-là. Parce que tu vas te montrer au sacrificateur que lorsque tu es guéri. Et le Seigneur leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Certainement, ils ont dû discuter. Certains ont dit, mais si on va demander au sacrificateur, là, il va nous tuer. Il y en a un qui lui dit, mais allons quand même, parce que c'est lui, c'est le Seigneur qui a dit d'aller. Si on n'est pas guéri, on va dire que c'est de sa faute. Ils disent, bon, d'accord. Ils y vont tous. Et pendant qu'ils sont en train d'obéir et qu'ils marchent, tu vois, il y a des miracles qui se produisent lorsque tu agis. C'est toujours dans l'action. À Cana, lorsqu'il a transformé l'eau en vin, il leur a dit, allez servir ce vin-là à l'ordonnateur du mariage. Mais les gens qui ont mis l'eau dans le vase, ils savent que c'est de l'eau qu'ils ont mis dedans. Lorsqu'ils prennent même, ils voient que c'est de l'eau. Ils disent, mais bon, comment on va faire? On va aller quand même. Si de toutes les façons c'est de l'eau, on va dire non, c'est Jésus qui nous a dit d'aller. C'est ça. Tu poses l'acte. La foi, c'est plus dans l'acte. Si Dieu ne se glorifie pas, mais c'est la faute de, c'est lui. Mais toi, tu as posé ton acte. Tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire. Il lui a dit, allez, vous montrez. Et ils vont se montrer pendant qu'ils marchent. Il y en a un qui dit, mais hé, on dirait que tes taches blanches ont disparu. L'autre dit, mais toi, tu n'as pas regardé, tes cheveux ont commencé à pousser. L'autre dit, mais ah, bizarrement, je n'ai plus mal aux articulations. Ils disent, mais hein, gloire à Dieu, on est guéri. Dès qu'ils ont dit, oh, on est guéri, ils ont commencé à danser un peu. Ils disent, bon, moi, je m'en fais la fête avec mes amis, je suis guéri. Il y en a un qui est parti. L'autre dit, oh, je m'en vais voir ma femme, il est parti. Il y en a un qui dit, ah, mais vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes enfants, ils courent, ils s'en vont. Il y en a un seul qui a dit non. Il faut que j'aille dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je vous ai dit, on garde des traces de toutes vos actions, même de vos paroles. Le Seigneur dit, vous serez jugé pour toute parole vaine que vous aurez proférée. N'est-ce pas? Chaque offrande que tu fais, on écrit ton nom, on met offrande. Il a donné ci, il a donné ça. Chaque remerciement, chaque prière, chaque fois que tu fais. Il ne faut pas penser que c'est oublié. Non, c'est enregistré. Tout ce que tu fais est enregistré. Tout ce que tu fais. C'est vrai, il y a des choses pour lesquelles tu seras pardonné. Mais tout ce que tu fais est enregistré. C'est écrit dans un livre. Vous avez le livre des actes. Vous avez le livre des souvenirs. Vous avez le livre de vie. Tout ça là, ce sont des registres qui sont tenus au ciel. Et toi seul, tu as au moins 5 requêtes au ciel. 5 miracles exaucés. 0 remerciement. Donc on te connaît au ciel comme étant quelqu'un qui dit jamais merci. Tu as déjà eu un ami qui dit jamais merci. Il y a des gens qui sont antipathiques. C'est-à-dire que la personne, mais quand il vient te demander un service, déjà ça t'énerve. Parce que tu sais que quand tu vas lui rendre le service, il y aura toujours un pincement au cœur qui va te rester. Parce qu'il y en a, il vient te demander un service comme si c'était un dû ou bien un devoir. Viens, frappe à ta porte. C'est qui? C'est moi. Je suis venu te voir, j'ai un problème là. Tout de suite, donne-moi de l'argent rapidement, je suis pressé. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai un problème. Je vais t'expliquer après. Donne-moi. Dès que tu lui donnes, il prend, il dit, bon, ok, on se voit après. Hein? Et puis il est parti. Tu ne l'entends plus. Pendant au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 1 an. La prochaine fois que tu le vois, c'est parce qu'il a un problème. C'est à cause d'eux, ils ont créé l'adage qui dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est des gens en réalité qui ne t'appellent que lorsqu'ils ont des problèmes. Et vous ne savez pas, mais les pasteurs sont les premiers à en souffrir. Sur 100 fidèles, il n'y en a que peut-être 5 ou bien 4 qui vont t'appeler pour dire, oh pasteur, j'ai une bonne nouvelle. Quand ton téléphone sonne, c'est toujours pour des problèmes. Maintenant, quand c'est des bonnes nouvelles, c'est d'autres téléphones qui sonnent. Quand il a une bonne nouvelle, il sait qui l'appelle. Mais quand il a une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose de difficile qui arrive. Ah, il faut qu'il appelle le pasteur. Mais donnez aussi de bonnes nouvelles au pasteur. Amen. Remercier aussi de temps en temps l'homme de Dieu. Il y en a même, tu as prié pour eux, tu ne sais même pas si Dieu a exaucé, si Dieu n'a pas exaucé. Le frère, il est là, il circule dans la ville seulement. Tu le croises un jour. Ah, mais pasteur, vraiment, sois béni. Tu as été une bénédiction pour ma vie. C'est dans la rue, là, il va te dire que tu as été une bénédiction pour sa vie. Les actions de grâce, c'est important. C'est important. Pour ta vie de prière, il ne faut pas être reconnu au ciel comme étant un profiteur, comme étant quelqu'un qui vient pour se servir et qui ne donne rien en retour. C'est pas bien. C'est une mentalité difficile. Hein? Il y a des gens, par exemple, ils viennent aux réunions, ils sont assis, ils écoutent bien le message, tout ça, qu'elle est bénie, qu'ils voient que c'est vers la fin, vers l'heure de l'offrande, puis ils se lèvent, ils s'en vont. Attends, vous n'avez jamais vu ça? Lui ne comprend pas pourquoi il doit faire une offrande. La parole de Dieu, c'est gratuit, non? Mais on paye un prix. Pour avoir certains ministères, il y a des prix énormes que vous devez payer. Vous pensez que, attends, tous les pasteurs ne prêchent pas de la même manière. Tous les pasteurs n'ont pas la même profondeur dans la parole et ce genre de choses. Il y en a qui passent leur temps à jouer PlayStation, à se promener à leur restaurant, à des dîners, tout ça, et puis, juste avant de venir donner son message, il ouvre sa Bible, il prend un verset, il lit ça rapidement, et puis il vient, il te relit le verset au moins 10 fois, et puis il essaie d'arranger, après il dit, bon, Dieu nous bénit, alléluia, gloire à Dieu, et puis chacun s'en va à la maison. Il y en a qui sont obligés de faire des sacrifices énormes. Des fois, pour atteindre certaines dimensions ministérielles, tu ne peux pas travailler et atteindre ces dimensions-là. Donc, quelque part, il faut qu'en retour, ceux qui sont bénis puissent également apporter. C'est ça les actions de grâce. Mais si tu ne participes pas, comment est-ce que tu peux être béni en retour? Comment est-ce que tu peux avancer? Comment est-ce que tu peux prospérer? Parce que c'est une chose d'avoir la vérité. Mais la grâce, c'est ce qui te permet de mettre la vérité en application pour obtenir des résultats. Et cette grâce-là, tu ne la reçois que lorsque tu poses des actions de grâce. C'est la clé qui débloque. Il y a des gens qui connaissent, ils peuvent vous citer tous les versets de la prospérité, mais ils ne sont pas prospères. Ils connaissent. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui elle est suivie d'aucun chagrin. Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous puissions recevoir la bénédiction, afin que nous puissions être enrichis. Mais il n'est pas riche. Vous savez pourquoi? Parce que pour que cette onction-là de prospérité puisse se déclencher dans sa vie, il faut qu'il pose des actes. Ce n'est pas le fait de réciter les versets, tu dois poser des actes. C'est ça qui va débloquer le miracle. Sois quelqu'un qui remercie. Amen. L'ingratitude envers Dieu nous égare. Regarde dans Romains chapitre 1, verset 21. Il ne faut pas être dans le groupe des ingrats. Hein? C'est une mauvaise fédération. Ils ont beaucoup d'adhérents, mais ça ne produit pas. Ça ne te conduit pas à bon port. Romains chapitre 1, verset 21. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, présentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous voyez ce que l'ingratitude peut produire dans la vie d'un individu, d'un homme. Il voit Dieu. Il connaît Dieu. Les gens essaient de nous faire croire que le monde a été créé par hasard. Et que nous sommes des descendants des gorilles, qui eux-mêmes sont des descendants des lézards, qui eux-mêmes étaient des descendants des têtards, qui eux-mêmes se sont formés par hasard dans l'eau. Pour ne pas donner gloire à Dieu. Et les palmiers, ils sont venus d'où? Les cocotiers, là, ils sont venus d'où? Les mangues, les ananas, ils sont venus d'où? Comment les continents étaient formés? C'est venu d'où? L'alternance, lune, soleil. Pourquoi est-ce que dans toute la galaxie, il n'y a pas une autre planète qui a une vie humaine? Ou un mode de vie quelconque? Mais pour ne pas donner gloire à Dieu, il faut trouver des choses auxquelles donner gloire. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de s'égarer et pensant qu'ils sont intelligents, en réalité, ils sont fous. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rendre grâce à Dieu. Ils ne veulent pas donner gloire à Dieu. Dans cette nation, les gens ne veulent pas donner gloire à Dieu. Ils sont en train de fermer tout ce que les gens peuvent utiliser pour pouvoir servir Dieu. Il ne faut pas qu'ils se réunissent. Il ne faut pas qu'ils prient. On consacre des salles, on consacre des endroits, des budgets colossaux pour pouvoir construire des boîtes de nuit, des hôtels, des restaurants, des cabarets. On fait la promotion des clowns à la télévision, ou bien du théâtre, ou bien des livres, de la culture, ce genre. Mais surtout pas de Dieu. On ne veut pas entendre parler de ça. Et c'est quoi le résultat? Comment ça s'enflammer? Les femmes, elles changent l'usage naturel des hommes Comment ça? Dieu est fort. Ça là, c'est il y a 2000 ans. Il savait qu'on allait, que certaines femmes allaient changer l'usage naturel des hommes pour aller utiliser d'autres appareils. Et que les hommes allaient s'enflammer homme avec homme, commettant des choses infâmes. C'est Dieu qui dit c'est infâme. Mais on vous dit non, ce n'est pas infâme, c'est de l'évolution. Quelle évolution? Dans ce temps-là. Et vous voyez les soi-disant sociétés qui génèrent des milliards et des milliards pour pouvoir soigner une maladie qui n'est que le résultat de leur égarement. Qui n'est que le résultat de leur égarement. Le SIDA a été découvert en quelle année? En 80, 84? 86 ou 84? 84? En 84? Mais regardez ce que la Bible dit. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ça, c'est quoi ça? De toute façon, le virus ici, il ne fait qu'évoluer seulement. Il change. Pourquoi? Il existe depuis. C'est le salaire de leur égarement. Et il y avait une note scientifique qui disait qu'effectivement, en l'an 2020, 60% des homosexuels seront séropositifs s'ils ne trouvent pas le remède. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui, au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu pour que l'évangile soit prêché, pour que l'évangile soit annoncé, ils prennent leur argent et ils vont déposer ça dans des centres de recherche pour qu'on trouve des remèdes pour que les homosexuels continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils continuent d'insulter Dieu. Voilà la vérité. L'ingratitude, c'est mauvais. L'ingratitude, ça te détruit n'importe quel chrétien. Un chrétien qui est ingrat, c'est un chrétien qui ne recevra rien. Et parce qu'il ne recevra rien, il va commencer à être aigri. Et parce qu'il est aigri, il va commencer à faire la sorcellerie. À envier les autres, à convoiter les autres, à maudire les gens. Il faut changer. Il faut arrêter de penser à toi seul. C'est ça. C'est un des signes des derniers temps. De toute façon, c'est la mode d'être ingrat. Le vent qui souffle pousse les gens à être ingrats. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 2. Et je vais vous raconter une histoire. De Timothée chapitre 3, versets 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Quand tu lis ça, tu as l'impression de voir les chrétiens du 21e siècle. Égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irreligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Dans les derniers temps, voilà comment les gens seront. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Il se lève un matin, il prend une feuille et commence à faire des comptes. Parce qu'il s'apprête à partir de la maison. Il tend à sa mère et à son père. Il dit, bon, chers parents, je suis venu vous voir pour qu'on fasse les comptes. Voilà ma liste. Hein. Vous me devez 300 000 euros. Les parents disent, ah, pourquoi? À chaque fois que vous m'avez envoyé acheter du pain, ça fait 10 euros. À chaque fois que vous m'avez demandé de porter des choses, voilà combien ça fait. À chaque fois que j'ai dû laver ta voiture, papa, ça fait 20 euros. À chaque fois que j'ai dû couper le gazon, ça fait ça. Ses parents disent, ah bon? Attends-nous 2 minutes, on revient. Les parents sont rentrés dans la chambre. Eux aussi, ils ont dressé leur liste. Ils sont revenus, ils disent que bon, nous, on te doit 300 000 euros, mais toi, tu nous dois beaucoup plus que ça. Il dit comment? La femme dit, pour les 9 mois que je t'ai porté dans mon ventre. Elle dit, mais c'est pas grave, ça là c'est gratuit. Pour les 2 ans pendant lesquels je t'ai donné le sein, c'est gratuit. Pour tous les jours où je t'ai accompagné à l'école, c'est gratuit. Mais quand ils ont commencé à lui faire la liste de ce qu'ils avaient fait pour lui, il s'est rendu compte qu'il était un homme ingrat. Et le problème, c'est que l'ingratitude, faut diriger ça vers les hommes, mais jamais vers Dieu. Il y a des gens qui osent être ingrats vis-à-vis de Dieu. J'ai déjà entendu quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce que Dieu m'a fait pour moi? My God. Le fait même que tu puisses dire ça, là, c'est qu'il t'a préservé. Il t'a empêché de mourir. Il t'a gardé. Il t'a sauvé. Il t'a protégé. Si Dieu n'avait pas sa main sur toi, tu ne pouvais pas être en train de respirer aujourd'hui. Tu sais combien de personnes meurent d'accidents chaque jour? Tu sais combien de personnes meurent de crise cardiaque? Donc déjà, la première action de grâce que tu dois faire lorsque tu te lèves le matin, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que je suis en vie ce matin. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour... Mais attends, tu dois avoir une attitude de remerciement. Ça va changer ta vie. Tu vas arrêter de broyer du noir. Tu vas commencer à participer à la lumière de l'évangile. La Bible dit que Christ nous a arraché des ténèbres pour nous faire entrer dans son admirable lumière. Il faut sortir de là. Amen. Remercier Dieu donc avant la matérialisation de sa prière. C'est une expression de foi. Et c'est une manière d'accepter. On te fait un présent, tu le prends. Lorsque tu dis merci, c'est que tu l'as reçu. C'est que tu es content qu'on l'ait fait pour toi. Mais tant que tu ne dis pas merci, c'est que tu trouves que ça ne te satisfait pas. Ça ne suffit pas. Donc on doit développer une attitude de reconnaissance et de remerciement. Toujours, dis à ton voisin, tu dois remercier Dieu de toutes les façons, toujours. Voilà, toujours. Et pour toutes choses, dis-lui, arrête de te plaindre. Voilà. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Pour toutes choses. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant un bon. Donc, pour toutes choses, il faut rendre grâce à Dieu. Il y a un frère qui m'a appelé un jour, il n'y a même pas longtemps. Il dit, oh, homme de Dieu, vraiment... J'ai été arrêté. Je dois être jugé bientôt. Les gens veulent me mettre en prison. Je lui demande, est-ce que tu as fait ce qu'on te reproche? Il dit, oui, j'ai fait. Ils ont toutes les preuves. Je dis, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Il dit, je regrette amèrement. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, non, pardon, faut prier pour moi. Faut que les gens là me libèrent. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, tout est entre les mains du Seigneur, mais on va prier. Est-ce que tu es sûr que tu regrettes? Il dit, oui. J'ai dit, bon, ok, prions le Seigneur. On a prié. Il est parti au tribunal. Les gens l'ont condamné à 6 mois de prison ferme et 70 000 euros d'amende. Et il m'envoie un message en me disant, gloire à Dieu, on m'a condamné à 6 mois de prison. Je crois que ça devait être le dernier SMS qui pouvait passer ou bien le dernier message qu'il pouvait envoyer. Gloire à Dieu, on m'a condamné à 6 mois de prison. J'ai mis parce que tu as. Je lui ai renvoyé un SMS en lui disant parce que tu as donné gloire à Dieu, ils vont te libérer. Et effectivement, son avocat a fait appel. Il n'y a même pas longtemps que l'affaire a été envoyée en appel. Et en appel, il a été complètement. On lui a donné effectivement 6 mois, mais avec sursis. Et ils ont annulé les 70 000 euros qu'il devait payer. Dieu a permis qu'il soit condamné pour voir véritablement l'état de son cœur. Si à ce moment-là, il avait dit, ah, c'est qui ce Dieu-là? Homme de Dieu, la prière n'a pas marché. Voilà, je me vais en prison maintenant. Mais comme il a donné gloire à Dieu, le Seigneur lui a fait grâce. Tu vois la puissance de l'action de grâce. C'est pour ça que le Seigneur dit, il dit, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Même quand ça vous fait mal, rendez grâce. Parce que vous savez, l'amour, vous savez c'est quoi? C'est pas de donner à quelqu'un ce qu'il veut. C'est de donner à quelqu'un ce dont il a besoin. C'est ça l'amour. Quand tu donnes à quelqu'un ce qu'il veut, tu es en train de le gâter. Tu vas faire de lui un bandit. Mais quand tu lui donnes ce dont il a besoin, tu es en train de le bâtir. Tu es en train de faire de lui un homme, quelqu'un de puissant. Et des fois, il y a des gens qui ont besoin de faire 6 mois en prison. Des fois, il y a des gens qui ont besoin qu'on les attrape et qu'ils aient des problèmes. Il y en a qui ont besoin qu'on les fesse. C'est une preuve d'amour. Ton enfant vient de faire une bêtise, tu l'aimes, c'est pour ça que tu lui donnes la fessée, parce qu'il a besoin de la fessée à ce moment présent-là. Sinon, lui, il veut des bonbons, parce qu'il a fait une bêtise. Mais si tu lui donnes un bonbon parce qu'il a fait une bêtise, ah, my God, tu auras de sérieux problèmes. Et Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et il nous donne ce dont nous avons besoin. Pas forcément ce qu'on veut. Dis Amen. Tu dis plus Amen. Amen. Parce qu'il nous aime. Donc, en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. On va dire peut-être que tu es ridicule. Tu rentres à la maison. Oh chérie, gloire à Dieu, remercions le Seigneur parce qu'on m'a chassé du temps. Du boulot. La femme va dire, mais ça va pas, non. Tu dis, rends gloire à Dieu, rends grâce à Dieu. Et puis vous commencez à monter une louange là, dans la maison. Mais il y a quelque chose qui va se passer au ciel. Il y a quelque chose qui va se passer au ciel. Il y a quelque chose qui va se passer. Pourquoi? Parce que tu es en train de poser un acte. Une action de grâce. Tu es en train de remercier le Seigneur au lieu de te plaindre. Quand tu rentres à la maison, oh Seigneur, vraiment, on est foutus. On est foutu, c'est fini, on est foutu. Commence à arranger les affaires parce qu'on ne pourra plus habiter ici. Il faut qu'on aille trouver une cabane quelque part parce que je ne pourrai plus payer le loyer. On est foutu. Arrête de dépenser de l'argent. Non, il faut geler tout. Ah, on est foutu, il faut... Attends. Qu'est-ce que tu fais? Et tu dis que tu as la foi. Tu dis que tu crois en Dieu. Tu crois que Dieu est puissant. Dis à ton voisin, action de grâce. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et continuons en disant, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Donc, si tu veux éteindre l'esprit, tu ne vas pas rendre grâce à Dieu en toute chose. N'éteignez pas l'esprit. Donc, le fait de rendre grâce en toute chose, ça permet de garder l'esprit éveillé dans ta vie. J'ai un autre témoignage encore tout à l'heure. C'était même hier soir. Il y a une sœur qui me dit, ah, mon mari, ça fait 3 mois, il ne veut plus me voir, même en peinture. Il m'appelle, hé, hey, oh. Il salue, il salue, il, en tout cas, le gars, il était devenu terrible. Et elle me disait, yeah, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on va prier. Et pendant la prière, j'ai vraiment senti l'onction. Et elle disait, ah, l'onction m'a traversé. Et le même soir, son mari l'a appelé pour lui demander où elle était. Et il est parti la chercher en voiture à la gare. Et quand ils sont rentrés à la maison, elle qui a l'habitude de se diriger vers sa chambre et lui vers la sienne, il est invité à venir le rejoindre. Donc le matin, elle m'appelait pour dire, ah non, vraiment. Alléluia. Le message est toujours sur mon portable. Alléluia. Mais tu vois, ce qu'elle a fait qui me touche le plus, c'est pas... En fait, le miracle en lui-même, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une relation avec Dieu. Le fait qu'elle ait rendu grâce à Dieu et qu'elle ait remercié le Seigneur pour ce qui avait été fait, ça lui ouvre les portes pour son prochain miracle. C'est ce qui est formidable. Mais quand tu n'as pas cette attitude de gratitude là, même pour le peu, des fois il y a des gens qui viennent rendre témoignage, ils disent vraiment j'ai été béni, oh vraiment le Seigneur m'a trop béni, on dit mon frère qu'est-ce qu'il a fait pour toi, oh vraiment. Je passais comme ça et puis quelqu'un m'a donné 5 euros. Tu dis, oh mon frère. À cause de 5 euros, tu dis, mais toi pour toi, peut-être que ce n'est rien. Peut-être que pour lui-même, les 5 euros, en réalité, ce n'est rien. Mais ce qui a de la valeur pour lui, c'est qu'il ait expérimenté quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Et tu ne peux pas lui voler cette volonté-là de pouvoir rendre grâce à Dieu et de pouvoir bénir le Seigneur pour le peu qu'il a fait pour lui. Parce que s'il rend grâce à Dieu pour le peu qu'il a fait pour lui, alors Dieu fera plus. Amen. Quelle réaction vous avez lorsque, par exemple, vous donnez quelque chose à quelqu'un et dit, c'est ça seulement? Est-ce que vous avez envie de lui donner plus ou bien est-ce que vous avez envie de lui arracher ce que vous lui avez donné? Par contre, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un et qu'il vous remercie au-delà de ce auquel vous vous attendiez, vous commencez à vous sentir un peu coupable. Vous avez envie de rajouter encore. Il dit, ah, c'est ce que tu m'as... Oh, merci vraiment. Merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu as envie de donner encore. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te remercier. Voyez, il faut changer de mentalité. Il faut changer notre manière d'agir, même dans la prière. Une prière de requête doit toujours finir par une prière d'action de grâce. Dieu t'a exaucé, tu remercies le Seigneur. Et maintenant, tu peux présenter une autre requête. Mais toi seul, tu as 5 dossiers de requête. Il y en a 4 en attente parce que pour le premier dossier qui a été exaucé, jusqu'à présent, on attend ton action de grâce. Ou bien, c'est pas ça. Colossiens chapitre 3, verset 17. La prière. My God. Tu vois tout ce qu'il y a? Tous ces détails-là, ça joue dans l'efficacité de ta prière. Quand tu commences, Seigneur, on dit enfermé, c'est encore lui. Toujours il prend, il donne jamais, c'est bon, enfermé. On dit. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, quel que soit ce que vous faites, que ce soit en parole ou en œuvre, rendez continuellement au nom du Seigneur Jésus grâce à Dieu le Père. Parce que c'est lui qui vous a permis de pouvoir le faire. Quel que soit ce que tu fais. Quel que soit ce que tu fais. Si tu as pu faire quelque chose, tu as pu te déplacer, par exemple, d'un point A à un point B. Oh Seigneur, je te rends grâce parce que je suis arrivé à bon port. Il y a des gens, moi, ça m'amuse souvent. Sur 100 personnes qui voyagent, il y en a 80 qui prient avant le décollage de l'avion. 80 hein, sur 100 personnes. 80%, ils ont toujours une petite cérémonie avant que l'avion décolle. parlent en langue. Il y en a qui parlent en langue, les pentecôtistes. Nos amis, eux font le signe de la croix. D'autres ont leur chapelet en main. Il y en a qui ont leur Bible. Il y en a qui ont une pensée avant que l'avion ne décolle. Mais dès que l'avion atterrit, tout le monde se lève. Il prend ses affaires, met sur les puissants. J'ai rarement vu des gens prier après l'atterrissage de l'avion pour dire « Ah, merci Seigneur, on est bien arrivé. » Vous voyez l'homme? Ingrat. Tout ce que tu fais, faut rendre grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a permis de le faire. Si tu as pu faire une offrande, rends grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a permis de le faire. Si tu as pu donner, rends grâce à Dieu. Si tu as pu voyager, arriver à bon port, rends grâce à Dieu. Si tu as pu devenir riche, rends grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Parce que ce ne sont pas tes propres forces qui t'ont emmené là. Dieu peut te le prouver. J'aimerais qu'il ne te le prouve pas. Amen. Faut pas souhaiter qu'il te montre qui tu es en réalité. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils ont besoin de ça pour ouvrir les yeux. Faut qu'on les chicote un peu. Parce qu'ils pensent qu'il est tellement fort. Mais les gens forts, il y en a plein dans les hôpitaux. Et il y en a plein au cimetière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Rends grâce à Dieu. Dis à ton voisin, rends grâce à Dieu. La prière d'action de grâce est un sacrifice spirituel. Voyez, quand vous prenez la Bible dans l'Ancien Testament, vous avez mentionné sacrifice d'action de grâce, plus de 300, 400 fois dans l'Ancien Testament. Dieu l'exigeait et Dieu le demandait de ses enfants. Aujourd'hui, tu ne peux plus emmener un mouton à l'église. Sinon, il faut que tu viennes avec ses papiers, sa carte d'identité. Avant, les moutons n'avaient pas de papier. Maintenant, il faut que tu emmènes son passeport, sa carte de vaccination et tout. Parce qu'il faut qu'on sache d'où ils viennent. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que le pasteur fasse avec un mouton? On va lire Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Il dit... Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Ce sacrifice de louange, on peut traduire ça aussi par ce sacrifice d'action de grâce. On confesse, verset 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. On va lire quelques versets dans Psaume. Allons dans Psaume maintenant. Psaume. Chapitre 69. On va lire plusieurs versets hein, dans Psaume. Donc tu restes en Psaume. Psaume 69. Verset 30. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai ton nom, le nom de Dieu. Par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Verset 32, il dit, cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Amen. Donc, action de grâce par la louange. Il remercie le Seigneur, il chante, il célèbre son nom. Psaume 107, verset 22. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Le psaume 107, c'est la grâce divine en faveur des rachetés. Donc je vais lire un peu plus haut, à partir du verset 17. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leurs âmes avaient en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Amen. Il envoya sa parole. Il envoya... Il y a des gens qui s'attendent toujours forcément à des signes, à des miracles, à des démonstrations bizarres. Pourquoi que Dieu agit? Mais comment Dieu guérit? À travers sa parole. Quand tu es assis et que tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train de recevoir la guérison de l'Éternel. Il faut chérir ces moments-là. La Bible dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Et ensuite, maintenant, qu'il loue. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Dieu a fait ça pour toi. Il t'a délivré. Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui offres? Qu'est-ce que tu investis dans son œuvre, dans son royaume? Et non seulement tu dois l'investir, mais tu dois l'investir dans la joie. Avec des cris de joie. Parce que tu as l'opportunité de pouvoir donner à celui qui t'a donné. Tu as l'opportunité de pouvoir semer dans l'œuvre de celui qui t'a sauvé. Psaume 116, verset 17. Je prie qu'après cet enseignement-là, tu ne sois plus dans la fédération des murmureurs professionnels. Mais plutôt dans celle des personnes qui rendent grâce à l'Éternel des armées et qui font des actions de grâce. Verset 16, il dit, « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Amen. Voilà. Tu as détaché mes liens. Vraiment, quand vous servez Dieu, vous pouvez comprendre ce que Dieu ressent souvent. Une des choses les plus difficiles dans le ministère, c'est la délivrance. C'est pour ça qu'il y en a pour éviter même d'en faire, parce que souvent c'est très compliqué. Ils préfèrent vous dire que le chrétien n'a pas besoin de délivrance, débrouille-toi. Donc il y a beaucoup d'églises où les gens sont nombreux. Mais ils sont nombreux, ils sont possédés jusqu'à la moelle épinière. Mais ils sont là. Et on leur explique qu'il faut qu'ils donnent leur dîme, parce que s'ils ne donnent pas leur dîme, voilà ce qui va leur arriver. Et les gens viennent, ils donnent leur dîme. Et quand ils viennent voir le pasteur, « Pasteur, j'ai un problème de délivrance. » On dit, « Tais-toi, qu'est-ce que tu racontes là ?» Quand tu donnes ta vie à Jésus, les démons sont partis. Pourquoi? Parce que ils ne se voient pas en train de transpirer au nom de Jésus. Ils sont de ce corps. Ils vont faire couper court. Je te dis que la délivrance n'existe pas. Donc, il y en a beaucoup qui se rabattent sur d'autres serviteurs qui eux font la délivrance. Ah, homme de Dieu, j'ai un problème, vraiment, il faut prier pour moi, il faut faire ma délivrance. L'homme de Dieu dit, ok, il va passer des nuits blanches, il va jeûner, il va prier pour ta délivrance pendant des heures et des heures. Dès que l'esprit est parti, toi, tu t'en vas aussi avec l'esprit. Tu retournes là où tu étais, tu es dans la joie, tout ça. Dès qu'il y a un petit problème, tu rappelles celui qui avait fait ta délivrance là. Ah, on dirait la délivrance que tu avais fait là. Il reste un petit esprit là qui me fatigue au niveau du genou. Il y a une loi dans le monde spirituel. C'est Dieu qui l'a établi. Tu moissonnes là où tu sèmes. Amen. Quand tu plantes quelque part, tu as le droit de récolter. Mais si tu n'as pas planté quelque part, tu n'as pas le droit de récolter. Quand tu fais un effort dans la vie de quelqu'un, pour l'aider à sortir d'une situation, c'est tout à fait normal que tu récoltes de la vie de cette personne-là. Ce qu'on constate maintenant, c'est le contraire. Ceux qui se fatiguent pour semer, on leur donne des miettes. Et ceux qui se fatiguent pas, qui se déplacent dans des Mercedes climatisées, qui vous disent que les démons n'existent pas, qui se contentent du service minimum, c'est à eux qu'on ramasse tout pour aller leur donner. Et vous pensez que comment est-ce que l'œuvre de Dieu va avancer? Comment est-ce que ça va évoluer? C'est ça aussi une partie de l'ingratitude. Une partie de l'ingratitude. Quand vous approchez de Dieu, ou bien de quelqu'un, ou bien de toute personne, ou de tout individu, ne vous approchez pas avec en tête, qu'est-ce que celui-là peut m'apporter? Amen. Parce que ça, c'est une manière égoïste de penser. Approche-toi avec la pensée, qu'est-ce que je peux apporter à cet homme? Et c'est ainsi que la loi de la bénédiction fonctionne. Et lui également, il ne voit pas qu'est-ce que je peux tirer de cette personne, mais il voit qu'est-ce que je peux lui apporter. C'est ça l'alliance. Dans une alliance, chacun défend les intérêts de l'autre et veut que l'autre soit béni, que l'autre prospère. Et donc quand le frère veut que je sois béni et que moi je veux qu'il soit béni, mais tous les deux on est béni. Mais quand le frère lui se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de lui? Et l'autre se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de lui? C'est ce qui nous donne le résultat qu'on a aujourd'hui. L'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre refroidira. Tout le monde calcule. Les fidèles calculent, mais le pasteur aussi calcule. Ah, il va calculer, mon frère. En une journée, tu ne peux pas faire. En une journée, tu ne peux pas faire deux délivrances. Si vraiment tu fais un bon ministère de délivrance. Donc tu vas savoir dans qui tu vas investir ta journée de délivrance. C'est dur de dire ces choses-là. Mais moi, je préfère vous dire la vérité. Parce que c'est vers ces choses-là qu'on est en train d'aller. C'est vers ces choses qu'on est en train d'arriver. Malheureusement. C'est dommage que l'Église en soit arrivée là. Mais il faut qu'on commence véritablement à changer. Il faut qu'on change. Il faut que les chrétiens changent. Vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes de Dieu. Parce que Dieu, vous ne le voyez pas. Comment est-ce que vous pouvez toucher Dieu lorsque vous touchez un de ses serviteurs? Tout ce que vous faites à un serviteur de Dieu, c'est comme si c'était à Dieu que vous le faisiez. Il faut revoir ton mode de pensée. Psaume 100, verset 4. Le dernier psaume qu'on va lire. Et ensuite, on va lire un autre passage et on aura fini. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Le psaume 100, c'est un appel à louer Dieu, c'est un des psaumes les plus courts, il n'y a que 5 versets. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. My God. Lui, il dit déjà, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Donc, il dit bien, il ne faut pas rentrer avec des murmures, il faut rentrer avec des louanges, des cantiques, célébrez-le, bénissez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Dis avec moi, car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. L'Éternel est bon. Point final. Il est bon. Alléluia. Voilà. Sa bonté durera toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Donc ne viens pas me dire le contraire. L'Éternel est bon. Dis à ton voisin, l'Éternel est bon. Voilà. Amen. Il est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Amen. Voilà. Tout ce qu'il fait est bon. On va lire maintenant 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 11 à 12. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 11 à 12. Et on va finir par ce passage. Je vais lire même à partir du verset 10. Hein. À partir du verset 10, ok? Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ici, Paul parle d'actions de grâce. Il parle d'actions de grâce qui sont en fait des offrandes et des libéralités que les chrétiens ont faites. Et il dit que ces offrandes-là, donc vous serez de la sorte enrichis à tous égards par toute espèce de libéralité, qui par notre moyen, ces offrandes-là, grâce au ministère, grâce à nous, feront encore offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, grâce à ce que vous faites comme action de grâce, d'autres personnes vont se retrouver également à faire des actions de grâce. C'est comme ça que la chaîne se met en marche. Vous êtes bénis, donc vous bénissez, et ça permet à la personne de pouvoir aller bénir d'autres personnes, qui eux également permettront à d'autres personnes d'être bénies. Alléluia. Et ainsi de suite. Il ne faut pas qu'arriver chez vous, la chaîne de la bénédiction s'arrête. Sinon, là, maintenant, ça fait un blocage. Ça fait que les autres, ça casse la chaîne. Ça fait que les autres ne peuvent pas recevoir aussi. C'est pour ça qu'il faut, maintenir cette prière-là. Généralement, l'action de grâce, comme je l'ai dit tantôt, avant, les gens faisaient des sacrifices d'action de grâce. Ils offraient des moutons, des brebis, des agneaux, des veaux. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Il n'y a plus de veaux, il n'y a plus de moutons, il n'y a plus d'agneaux, ce genre de choses. Maintenant, tu ne peux pas amener un mouton à l'église. Tu amènes des offrandes. Et lorsque Dieu t'a béni, tu as amené un sujet de prière. On a prié pour toi. Tu as été béni. Il faut que tu viennes rendre grâce à Dieu et que ce ne soit pas seulement un témoignage d'abord. Déjà, même faire le témoignage pour beaucoup, c'est difficile. Mais quand tu as fini de faire le témoignage, il faut que tu fasses un sacrifice. C'est à ce moment-là que certains trouvent que non, le pasteur aime trop l'argent. Au moment où il avait le besoin, là, le pasteur n'aimait pas l'argent. Mais maintenant que son problème est réglé, le pasteur... Non, c'est à ce moment-là que tu dois faire le sacrifice pour dire, ah vraiment, j'ai été béni. Homme de Dieu, je suis venu te dire que j'ai eu du travail. Et donc, tu ne t'arrêtes pas, ah j'ai eu du travail. Un sacrifice, c'est une partie de toi que tu investis. Tu ne t'arrêtes pas, ah j'ai eu du travail. Tu vas plus loin. J'ai eu du travail. Donc, je vais semer ça pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et là, l'action de grâce est complète. On va prier le Seigneur.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.